commencé ce matin la prière autour d'un puits, celui d'Abraham à Beersheba. Mais tout à l'heure, si, comme on dit ici, si Dieu le veut, nous accéderons à l'une des sources de Ein Hadat, si Dieu le veut, car il a plu hier, et quand il pleut ici, il y a de suite des wadis, et ils sont facilement infranchissables. C'est ainsi que nos voisins de table hier du diocèse de Ars n'ont pas pu aller à Ein Hadat à cause de l'eau qui est passée partout sur les routes, le bus ne pouvait pas passer. Donc restons avec Abraham. Abraham partit sans savoir exactement où aller. Il n'y avait ni poteau indicateur, ni GPS. Mais le chemin se fait en cheminant, en marchant. Et c'est petit à petit qu'il découvrira ce que le Seigneur veut pour lui. Ça passera par bien des épreuves, mais aussi par la promesse. Les épreuves, ça sera celle de la descendance. Mais aujourd'hui, restons-en à la promesse. La promesse d'une terre, la promesse d'un pays, la promesse d'un bonheur. La bénédiction concerne tous les peuples. Je bénirai toutes les nations en toi, à cause de toi. Parce que tu t'es mis en route sans savoir où aller. Parce que tu t'es prêt à l'aventure pour marcher vers ton avenir. C'est bien que cette promesse soit faite au tout début de la Bible. Ce sont les premiers mots à un personnage historique comme Abraham. Et ce sont les mots qui sont toujours d'actualité. Il n'y a pas de vie aujourd'hui qui ne soit une aventure. Si on n'a pas d'horizon, si on n'a pas d'avenir vu en tête ou dans notre cœur ou dans notre pays ou dans notre société, eh bien on ne marche pas. On fait du surplace, on n'avance pas, on tourne en rond et quelquefois on se désespère. On désespère même de donner la vie aujourd'hui. Car il n'y a pas d'avenir. Eh bien, les premiers mots prennent le contre-pied de cette mentalité, qu'elle soit d'hier, d'avant-hier, ou d'aujourd'hui, ou de demain, pour dire que la vie est toujours devant nous. Va, quitte ton pays pour le pays que je te montrerai, que je te révélerai. Alors, eh bien, dans notre prière, nous portons ceux qui osent l'avenir, ceux qui osent marcher, ceux qui osent s'aventurer sans toujours savoir quelle sera la route, car la route se fait en marchant. Nous allons mettre nos pas dans les aventuriers de Dieu qui ont su quitter pas seulement un pays, mais l'arrière-pays qui est notre mentalité, qui est notre acquis ou notre prérequis qui est ancestral dans notre cerveau. Nous savons bien qu'il y a des choses très 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 primitives qui y logent. Quitter pour s'aventurer aux côtés de Dieu comme Abraham l'a fait. Quitte ton pays, je te ferai de toi une grande nation, je te bénirai et tu deviendras une bénédiction. Alors Seigneur, fais que nous entrions dans cette démarche, dans cette marche, dans l'horizon que tu nous proposes, dans la vie que tu nous ouvres. Ce que l'homme n'a pas vu, ni l'oreille entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment.
Moi, d'habitude, quand je présente le désert, je vais toujours à la racine linguistique. Désert, je ne sais pas d'où vient le terme latin français, désert, désert. Je n'ai pas une grande connaissance, surtout que je n'ai aucune connaissance des racines des langues latines. Ok, je connais quelques mots en latin, mais pas beaucoup. Mais j'ai appris que les noms et les mots arabes hébreux, ils ont leurs racines. Et les mots désert, surtout en hébreu, veut dire medbar. Medbar. Et pour retourner à la racine du mot en arabe ou en hébreu, il faut garder trois lettres. Si nous avons un mot de 10 lettres, il faut enlever les 7, il faut garder les 3 qui sont le cœur de ces et les racines de ce mot. Medbar. Et la racine du mot medbar, davar. Dalet, bet, reshet. Les D, les B, les R. Davar. Et que veut dire davar? La chose. La chose. Et les mains, c'est la négation. Ça veut dire la manque des choses. Et dans les déserts, en général, on n'a rien. Mais aussi, davar, avec le mot davar, on peut faire un verbe en hébreu, medaber. Et que veut dire medaber? Il veut dire parler. Parler. Et ne soyez pas étonnés que la première vie monastique s'est bien développée dans le désert. Où il n'y a rien, il y a la manque des choses, où ces moines pouvaient écouter celui qui parlait, c'était Dieu, à travers sa création. Aujourd'hui, on peut voir les installations dans le désert, à droite, à gauche, du village, des villes. Ces bédouins, je n'allais pas dire qu'ils sont vraiment originaires de ce pays depuis toujours. C'est possible qu'ils sont venus en immigration au cours de l'histoire. Mais dans la région est désertique. Soit ici, soit la Jordanie, soit l'Irak, soit le pays du Golfe, soit l'Arabie Saoudite. Alors nous sommes dans un milieu désertique. Et je crois aussi un peu de territoire syrien doit être désertique. Et se trouvait la population dans cette région, et je crois que cette population était nomade. Et les preuves, ce nous raconte la Bible, Abraham. Abraham, loin de son importance biblique, et loin de son image biblique, et loin de la signification et symbole de la Bible, Abraham était un nomade. Quelqu'un qui cherchait la verdure et l'eau pour la famille et pour le troupeau. Ainsi, il est parti de l'Irak, il est arrivé chez nous. Maintenant, avec les temps modernes, l'État d'Israël veut organiser ses déserts. On peut voir comment les Bédouins habitent dans ce désert, ces nomades. Chacun a sa maison, des fois en métal, des fois la tente, et à savoir... Tout ce que vous voyez sont des rassemblements bédouins qui ne sont pas reconnus par l'État. Et je veux dire, c'est une arme à double effet, qu'elle ne soit pas reconnue, que l'État d'Israël veut organiser ses bédouins dans des villes et villages bien organisés, et que l'État d'Israël veut s'en profiter des larges territoires du désert, qu'elle soit un lieu d'entraînement militaire. L'État d'Israël a fait beaucoup d'efforts de rassembler ses bédouins dans des villes et villages. Il a réussi au commencement à certains endroits, mais pas entièrement. Et dans le désert de Negev, il y a à peu près 100 000 bédouins de ce type, comme vous voyez. Et beaucoup de villages ou bien des rassemblements bédouins qui ne sont pas reconnus. Mais quand même, comme je dis, il y a des endroits où l'État d'Israël a réussi de rassembler les Bédouins dans des villes et villages modernes. Et qui était la surprise, et je sais bien que vous allez rire, les Bédouins qui n'avaient pas l'habitude d'habiter dans le dur, ils ont mis la tente devant la maison, ils ont mis les animaux dans les maisons. C'était leur coutume de vie. Mais plus tard, ils s'adaptaient au fur et à mesure, et maintenant, ils vivent bien dans ce village. Maintenant, il y a des raisons pour lesquelles les Arabes bédouins refusent d'écouter l'État d'Israël. Ça cause une sorte de conflit. Et pour ces Arabes, ils possèdent toute la terre ici. C'est leur terre. Et l'État d'Israël leur propose une maison avec un petit morceau de terrain. Alors, ils ne vont pas leur trottoir. Mais aussi, ils sont habitués de vivre de cette manière depuis toujours. Nous avons laissé une ville israélienne à notre gauche et derrière, c'est la ville de Dimona. Et la ville de Dimona, au commencement à sa fondation, elle était une ville plutôt française ou bien francophone. Car pas loin de la ville se trouve le centre nucléaire israélien qui était créé en coopération avec la France. Et ce qui a fait monter cette ville, c'était les experts français qui sont venus à l'aide de l'État d'Israël. Mais j'aime bien vous assurer que Charles de Gaulle a arrêté la coopération, il a retiré ses experts français d'ici. Et plus tard, c'était les Américains qui prenaient le relais. Et avec le temps, ça grandissait cette ville. On trouve quelques Américains, mais aussi surtout les Israéliens. Et qu'est-ce qu'on peut voir à gauche? Un grand champ de cactus. Figue de Barbarie. La saison, c'est le mois de août, en été. On peut manger le fruit, c'est bon, mais c'est un peu lourd pour l'estomac. On peut manger un morceau, deux morceaux maximum. Sinon, ça donne les diarrhées facilement. Ah oui, mais le cactus rentre dans la fabrication des médicaments. J'imagine que les fermes ici, c'est pour la fabrication des médicaments. Soit le fruit même, soit les feuilles du cactus. Ça rentre dans la fabrication des médicaments et des shampoings aussi.
Un M privatif, ça fait mais, qu'il n'y a rien. Bon, en fait, vous voyez qu'il y a bien quelque chose. Et même il y a quelquefois quelqu'un, il y a du monde dans le désert. On a vu les Bédouins, mais dans le temps et dans l'histoire, il y a eu toujours des déplacements de tribus. Sans parler des 12 tribus d'Israël, mais bon, il y a toujours eu du monde dans le désert. Et même, il y aura une grande foule du temps de Jean-Baptiste, quand il prêchait dans le désert, il était entouré par beaucoup de gens qui étaient autour de lui, qui venaient des villes, et parmi lesquels, eh bien, commencera l'aventure de Jésus. Donc, dans le désert, il n'y a rien, c'est vrai. Il n'y a pas de ville, grande ville, il n'y a pas de... Bon. Mais on a toujours vécu dans le désert. Toujours vécu dans le désert. La chose la plus précieuse, comme disait Ramzi, mais comme nous le savons depuis la Bible aussi, c'est l'eau. C'est l'eau. Sans eau, il ne peut pas y avoir de vie, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les troupeaux. Il ne peut pas y avoir de vie, donc on se déplace de point d'eau en point d'eau. Si on lit sous ce simple angle de lecture la Bible, eh bien, on peut voir que c'est une histoire d'eau, pour ainsi dire. Voilà, pour ainsi dire. On va de puits en puits. Alors, pour repérer la plus ancienne recherche de cette eau, on a parlé d'Abraham tout à l'heure, du puits, bon, je n'y reviens pas. On va passer à un épisode suivant, c'est que bon, l'ensemble des tribus d'Israël se sont retrouvées en captivité en Égypte. On connaît l'histoire, c'est qu'il y a eu une grande famine dans ce pays-ci, et que, bien évidemment, hier comme aujourd'hui, les hommes ne peuvent pas rester ni sans boire, ni sans manger, et donc il faut aller là où est la nourriture. À ce moment-là, c'était l'Égypte. Le grenier à blé, et il y avait tout ce qu'il fallait pour tous les petits peuples des alentours et les tribus des alentours. C'est ainsi donc que, avec Joseph, les tribus, ses frères, sont arrivés en Égypte. Et la Bible précise même la durée que va durer la captivité de ces peuples-là. C'est 430 ans pendant lesquels ils seront au service du Pharaon. Ça a bien commencé parce que Pharaon était le numéro 2, enfin le chargé de l'approvisionnement, le ministre des Affaires économiques et de l'Agriculture en même temps, enfin bon, tout. Et par contre, après, ça ira de mal en pis. Ce matin, dans la lecture, on nous faisait lire le tout début du livre de l'Exode. L'Exode qui veut dire le départ. Bon, le départ d'Égypte pour le désert et pour la terre promise. Le départ, le livre de l'Exode. On lisait donc cette lecture qui commence par ceci. Un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. C'est-à-dire, il y a bien longtemps qu'on avait oublié l'histoire de Joseph, bien longtemps qu'on s'était habitué aux choses telles qu'elles étaient. Il y avait des maîtres, il y a des esclaves. Les Hébreux, comme les autres, étaient soumis à l'esclavage pour produire des briques, pour construire de nouvelles villes, parmi lesquelles Pi Ramsès, du nom de ce pharaon, Ramsès, etc. Donc, cet esclavage pouvait-il durer ? Si le peuple de Dieu a été appelé pour une bénédiction, c'est pas pour la malédiction de l'esclavage. Et ça marquera beaucoup la mémoire biblique, parce que le peuple de la Bible est un peuple libre, fondamentalement libre. Et le peuple du Nouveau Testament est un peuple libre, parce que libéré plus radicalement encore par Jésus, mais nous y reviendrons quand nous serons au Jourdain demain. Restons avec Moïse, donc... Ce peuple est en esclavage et commence au chapitre 3 le récit de la vocation de Moïse. Vous connaissez tous l'histoire du buisson ardent. Moïse qui avait dû fuir parce que il avait senti la solidarité avec son peuple. Il avait senti combien son peuple pouvait être maltraité et l'un des siens a été tué. Donc lui-même va tuer un Égyptien. Et comme ça se savait, il devra fuir au désert. Il viendra dans les environs du Sinaï. Et là se passera le récit de sa vocation qui commence par le buisson ardent. Souvent, on ne lit que le buisson ardent, qui est un très joli récit. Et pourquoi pas, hein, donc au Sinaï. Mais le buisson ardent n'est que le préambule, l'introduction de la vocation de Moïse. Donc le préambule... Moïse fait paître, et puis tout d'un coup, il voit comme un buisson qui prend feu sans se consumer. Et il s'approche, et donc il apprend que cette terre qu'il foule est une terre sainte. Il se déchausse, et puis la voix qui lui apparaît va l'interpeller, Moïse, avec comme une personnalisation, c'est-à-dire l'esclavage du peuple. Et Moïse a su que son peuple était esclave, il a voulu donc agir en tuant un Égyptien pour défendre l'Hébreu. Mais il apprendra que ce n'est pas le peuple qui est captif, ce n'est pas le peuple qui est malheureux seulement, mais que c'est Dieu lui-même. Et Dieu qui déclare « J'ai vu deux fois, j'ai vu la misère de mon peuple et je veux que tu le libères. » Donc « J'ai vu la misère de mon peuple ». On parle du peuple de Dieu. Bon, ça a commencé avec Abraham, mais les liens ne sont jamais distendus. Et Dieu ne peut se consoler ou se contenter ou se tenir éloigné de ce qui se passe dans le peuple, que ça aille bien ou que ça aille mal. Là, ça va mal. Et donc, cette misère dans laquelle règne ou est le peuple, il veut l'en libérer par un intermédiaire, par Moïse. Donc, j'abrège le récit de sa longue vocation, mais il faut absolument relire ce chapitre 3 et 4, parce que vous avez le résumé de toutes les vocations possibles, imaginables, non seulement dans la Bible et dans le Nouveau Testament, mais dans l'histoire de nos vies également. Tout à l'heure, on disait comment il y a des résistances en chacun de nous, bien sûr. Eh bien, toutes les résistances, Moïse s'en fera l'écho, Par exemple, il dira, mais écoute, je ne sais pas parler. Et donc, le Seigneur répondra, je mettrai mes mots dans ta bouche, par exemple. Ensuite, une deuxième objection, c'est, prends mon frère, lui au moins, il est plus doué que moi. Bon. Et là, de nouveau, le Seigneur brisera la résistance de Moïse pour dire, non, mais c'est toi, c'est toi. Et puis Moïse dira, comment je vais faire, mais retourner auprès de Pharaon, je ne peux pas, jamais il ne libérera mon peuple. Et d'ailleurs, il me demandera qui c'est qui m'envoie. Et là va se passer la révélation du nom. Exode 3, verset 14, 3, 14. Je suis qui je suis. C'est une énigme. Si on traduit différemment, c'est « Je suis qui je serai ». C'est-à-dire « Je me révélerai à toi au fur et à mesure ». Voilà, donc cette histoire de Moïse, et toute la journée, on sillonnera un peu ces pays-là avec Moïse en arrière-pays, si vous voulez. Et donc, quand Moïse libérera le pays, j'abrège avec toutes les plaies et compagnie, hein, parce qu'il a dû insister une fois, deux fois, dix fois pour que Pharaon laisse partir le... Tout ça, c'est très riche d'enseignements. Parmi les plaies, vous avez entendu qu'il y avait aussi, les fameuses sauterelles. Et vous connaissez l'actualité quand même. Depuis trois semaines, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, est complètement ravagée par des milliards et des milliards de sauterelles. Chaque sauterelle ne mange que quelques milligrammes ou grammes de verdure. Mais multipliez ça par des milliards, voilà. C'est un fléau. Un fléau de tous les temps, mais un fléau de notre temps aussi. Ouais. Et donc, après toutes ces plaies, il y aura la traversée de la mer Rouge et surtout les 40 ans dans le désert. Alors, pensons un peu à ce temps de désert où le peuple est resté 40 ans. Il y a un désert ici, au sud de nous, qui s'appelle le désert de Sin. Alors, Sin... qui adonnera Sinaï aussi. Sin, ça veut dire la dent. Et effectivement, on dirait une incisive un peu pointée vers le ciel. Donc, ça a donné le nom à ce désert, le désert de Sin, et même le monde, Sinaï. Mais voilà. Donc, vous entendez en même temps comment la langue hébraïque est une langue descriptive. Hein, c'est pas tellement une langue conceptuelle comme les Grecs qui réfléchiront, qui philosopheront, qui vont, etc., inventer des concepts, inventer beaucoup de choses. Bon. Mais, et les canons de la beauté, etc., bon, la Grèce. Bon. Ça ne veut pas dire que les Hébreux n'ont pas l'idée de beau, de bon et de juste. Au contraire, non. La justice est très importante. La beauté aussi. Par exemple, quand ils parlent de Jérusalem, ville belle, belle, entre toutes. Bon. La beauté n'est pas simplement la beauté physique, mais la beauté du cœur, la beauté de la destinée, enfin, etc. Belle entre toutes. Bon. Donc les Hébreux ont tout ça, mais ce n'est pas de façon conceptuelle, c'est de façon descriptive, pratique. Bon, ils voient une forme de dent, et bien ils vont appeler ce mont Sinaï, et le Sinaï va donner le nom à ce désert, le désert de Sin, etc. Bon. Par exemple, on va aller, si on passe, on va donc à Ein Avdat. Ein, ça veut dire la source, bien sûr. Mais c'est un deuxième sens. C'est l'œil, tout simplement, l'œil. Et l'œil est un mot et une réalité très importante dans la Bible, l'œil. Et qu'est-ce que c'est que l'œil? C'est par ce par quoi on voit, évidemment. C'est-à-dire, c'est la source de notre connaissance. Parce que sans voir, bien sûr, on peut être aveugle et savoir aussi, mais sans voir, il ne peut pas y avoir de synthèse personnelle, de connaissance personnelle, de décision personnelle. Il faut voir d'abord avant de décider et d'agir. Voir, c'est le premier registre. La vue est l'auxiliaire du cœur et de l'intelligence dans la Bible. Si je ne vois pas... Alors évidemment, vous direz, oui, mais enfin, ça nous rappelle Thomas, là, si je ne le vois pas, je ne le croirai pas. Bon, c'est encore autre chose, ça. Hein, voilà, c'est encore autre chose. Enfin, on va y arriver. Mais, voir. Et donc, l'œil se dit Ein, et ça veut dire aussi la source. Vous voyez comment la source a donné le nom de l'œil. Parce que la source, c'est l'eau qui jaillit de la terre, l'eau qui donne la vie. Pas d'eau, pas de vie, c'est évident. Et voilà. Et donc, pas d'œil, pas de connaissance, pas de décision dans la vie. Et on ne peut pas se débrouiller. Comment connaître son chemin si on ne le voit pas ?